7h44 avec le nucléaire au cœur de l'actualité, le nucléaire nord-coréen, le nucléaire iranien avec lequel on va débuter. Le nucléaire va-t-il nous laisser en paix en compagnie de nos deux invités, Lélia Rousselet, bonjour, vous êtes chercheur en relations internationales, vous êtes l'auteur de Négocier l'atome et vice-présidente de l'Institut Open Diplomatie. À côté de vous, Frédéric Ancel, bonjour, vous êtes maître de conférences à Sciences Po Paris, professeur de relations internationales à Paris School of Business. Vous avez récemment publié Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. On va tout d'abord écouter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lequel accuse Téhéran de mentir à propos de son programme nucléaire.
Ce soir, je suis ici pour vous dire une chose. L'Iran a menti, et pendant longtemps. Voici l'énoncé de la mission. Concevoir, produire et tester 5 ogives, chacune représentant l'équivalent de 10 kilotonnes de TNT, destinées à armer un missile.
Une déclaration faite lundi dernier, lundi 30 avril, avec une mise en scène qu'on peut essayer de résumer pour les auditeurs qui n'ont pas vu cette mise en scène. Benjamin Netanyahou avec un micro dévoilant des étagères masquées par un drap noir, des étagères un peu à la manière de ces étagères d'une grande marque de meubles suédois, à l'intérieur de quelles on voit des dossiers. Il y aurait 55 000 pages, 183 CD, la preuve d'un programme nucléaire secret iranien dont tout le monde était déjà au courant, Frédéric Ancel ?
Oui, c'est bien le problème. C'est-à-dire que les Iraniens ont menti dans les années 2000. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu des sanctions à partir de janvier 2007. Toute une série de trains de sanctions de façon à ce que l'Iran n'aille pas jusqu'à la bombe. Et c'est aussi pour cela que le 14 juillet 2015, les 5 plus 1, autrement dit les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne d'une part, l'Iran d'autre part, signait le fameux accord nucléaire qui, a priori, nous a préservé pendant au moins 10 ans d'une accélération du programme nucléaire iranien qui pouvait peut-être un jour permettre d'aller à la bombe.
Alors pourquoi Benjamin Netanyahou a-t-il fait cette déclaration lundi dernier ? Il a des petits soucis de politique intérieure.
Alors c'est ça. Je pense que Netanyahou s'est adressé essentiellement à deux opinions publiques. D'ailleurs, il s'est exprimé en anglais. D'abord à sa propre opinion publique. Bon, la majorité des Israéliens parlent l'anglais, ça tombe très bien, parce qu'effectivement, il est en butte à la police et vraisemblablement à la justice. Et par conséquent, il joue sa scénographie habituelle, c'est-à-dire le bouclier face notamment à un danger qui est celui de l'Iran. Mais il s'est aussi adressé à l'opinion publique américaine. Je ne crois pas que ce soit une volonté pour lui de tenter de convaincre Trump. Si tant est que Trump soit déjà convaincu de quelque chose, c'est pas Netanyahou qui va le faire changer de d'avis. On verra bien le 12 mai ce que décidera Trump sur cet accord nucléaire de 2015. Mais je crois qu'il s'est surtout adressé, Netanyahou, à l'opinion publique américaine, puisqu'on sait que le Congrès est extrêmement soucieux de ce que disent les Américains. Or, il n'aura échappé à personne ici que les midterms, c'est bientôt, et que les congressmen américains, y compris d'ailleurs les démocrates, seront extrêmement sensibles à ce qui sera dit sur l'Iran.
Lélia Rousselet, quelle a été la réponse de l'Iran ? Comment l'opinion publique iranienne a-t-elle réagi à cette déclaration de Benjamin Netanyahou ?
Alors évidemment, la réaction a été très forte, puisque l'Iran a tout de suite démenti à travers le ministère des Affaires étrangères iranien en disant que c'était des mensonges. Mais je pense que la réelle question, c'est pas que ça soit des mensonges ou pas, mais c'est surtout que c'est des informations dont on était déjà au courant, qui portent sur avant 2015. Donc finalement, comme l'ont déclaré à la fois la France et puis la Grande-Bretagne et l'Allemagne, finalement, ça n'apporte rien de nouveau. Et ça même renforce l'idée que cet accord sur le nucléaire iranien est absolument essentiel.
Donc ce ne sont pas vraiment des mensonges.
Alors, ce ne sont pas vraiment des mensonges, c'est-à-dire que c'était des mensonges à l'époque qui ont déjà été dévoilés.
Lorsque Benjamin Netanyahou a dévoilé ses dossiers, il a expliqué que ceux-ci avaient été trouvés dans un entrepôt. C'est une histoire un peu rocambolesque. Est-ce que vous pouvez nous la résumer en quelques mots, Frédéric Ancel ?
Alors, si vous voulez, j'y étais pas. Et d'une part, d'autre part, les entrepôts, je veux bien, mais j'imagine quand même assez difficilement les Israéliens, avec toute la puissance qu'est celle du Mossad, leur service de renseignement.
Vider les entrepôts iraniens.
Voilà, en Iran même, c'est un peu compliqué. Alors, en revanche, non, il peut très bien y avoir des complicités d'ingénieurs nucléaires iraniens. Ça s'est déjà produit dans les années 90, d'une part. D'autre part, en Syrie, il peut y avoir, oui, un certain nombre d'éléments disposés dans différentes bases, puisqu'on sait que les Iraniens sont très présents en Syrie, et là, pour le coup, ce serait peut-être plus facile ou moins difficile pour les services de renseignement israéliens d'intervenir.
Parce que les dossiers ont l'air d'être extrêmement propres, quasiment neufs, bien rangés derrière Benjamin Netanyahou. Il y a en tout cas une question, c'est la question du programme nucléaire iranien. Quel en était le but à l'origine, Lélia Rousselet, si vous pouvez nous résumer les principales étapes du développement de ce programme nucléaire ? Ce programme nucléaire, Frédéric Ancel,
a commencé par les centrifugeuses. C'est-à-dire que l'Iran a décidé, à la fin des années 90, d'entreprendre l'une des deux voies menant potentiellement, je dis bien potentiellement, au nucléaire militaire. Il s'agissait notamment de produire du plutonium. Alors, sans entrer dans les détails techniques trop compliqués, l'Iran a toujours considéré qu'il avait le droit de développer une filière nucléaire à usage civil. Or, dans les années 2000, et très précisément en 2002, l'Agence internationale de l'énergie atomique découvert, ça s'est passé à l'époque à Vienne, 2002 et 2003, on a découvert que l'Iran ne se contentait pas de la filière qui ne menait qu'au civil. Et c'est la raison pour laquelle des négociations, puis des sanctions, ont commencé à intervenir à partir de 2005-2006.
Il y a une longue histoire, donc un bras de fer, à partir du moment où on a découvert ces centrifugeuses. Elles servent à quoi d'ailleurs ces centrifugeuses, Frédéric Ancel ?
À créer très précisément des matières, et en particulier à la fin des fins du plutonium, qui va permettre potentiellement de fabriquer une bombe.
Et lorsqu'on en a découvert l'existence, on s'est dit que ça ne pouvait pas être uniquement du nucléaire civil.
C'est ça. Et ça, c'est le vrai problème, c'est pas le nucléaire civil, parce que depuis le traité de non-prolifération de 68, tous les États du monde ont un droit souverain à disposer du nucléaire civil et à le développer. Mieux que ça, l'AIEA, que j'évoquais il y a un instant, se propose d'aider un certain nombre d'États qui n'auraient pas les moyens techniques ou financiers de le faire, d'acquérir ce nucléaire civil. En contrepartie de quoi, il est strictement interdit, bien sûr, d'aller potentiellement à la
bombe. Et alors, lorsqu'on essaye de comprendre la stratégie des acteurs en place du point de vue du nucléaire, on sait qu'Israël a aujourd'hui la bombe atomique. Quels sont les autres acteurs dans la région et comment se situent les différentes puissances par rapport à la question du nucléaire régional?
En 68, traité de non-prolifération, vous n'avez que 5 puissances, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui en disposent. L'Inde et le Pakistan, en 98, font respectivement sauter leurs propres bombes. On n'y a pas pu grand-chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu s'y opposer, c'était déjà des puissances importantes, et tacitement, on a considéré que le TNP, dont elle n'était pas signataire d'ailleurs, donc elle ne violait pas réellement le droit international, ne s'appliquait pas à elle. Alors ensuite, vous avez deux autres États un peu plus compliqués, c'est Israël. Alors Israël dispose bien évidemment de la bombe atomique, mais Israël ne communique pas et n'a jamais procédé à un essai officiel.
Jamais reconnu donc.
Jamais reconnu. Et Israël ne communique pas, donc ça n'a pas été reconnu. Fondamentalement, Israël doit disposer d'entre 100 et 150 engins. Quant à la Corée du Nord était signataire du traité de non-prolifération de 68, mais en 2003, elle s'en retire. Et là, à partir de 2003, nous avons, un peu à la manière de l'Iran, avec d'autres procédés techniques sur lesquels je n'insiste pas parce que c'est un peu compliqué, mais la Corée du Nord a quasiment abouti, quasiment pour être poli, à l'obtention de la bombe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui est en train de se passer avec la Corée du Nord, c'est que s'il y a des négociations qui permettent de dénucléariser la péninsule, comme ça a été dit à tort et à travers ces derniers jours, mais au moins de geler le programme nucléaire nord-coréen, eh bien ça permettra officiellement de dire la Corée du Nord ne transgresse pas le TNP, il n'y a rien de nouveau, même si ça fait jaser, comme ça a été très bien dit il y a un instant, les Iraniens. N'empêche qu'officiellement, rien n'aura été fondamentalement changé.
Alors donc ça, c'est pour la question du nucléaire dans la péninsule coréenne, Lélia Rousselet. Sur la question, donc cette fois-ci, de l'atome iranien, il y a eu donc des négociations à ce sujet. Quels étaient les principaux points de cet accord conclu avec les États-Unis ?
Alors, l'idée de cet accord qui a donc été signé le 14 juillet 2015, c'était en fait de contraindre l'Iran à un certain nombre de contrôles et de mécanismes donc de transparence pour l'AIEA pour éviter que l'Iran développe le nucléaire militaire. Et en échange de ça, les autres pays donc du P5 plus 1 et l'Union européenne en tant qu'acteur... P5 plus 1, oui.
C'est-à-dire
les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Allemagne, et également l'Union européenne en tant qu'acteur à part entière, ont accepté de lever les régimes de sanctions qui pesaient sur l'Iran, et donc de permettre à l'Iran de développer son économie et de revenir sur la scène internationale en tant qu'acteur à part entière.
Était-ce un bon accord ?
Oui, c'était un accord qui était en tout cas qui permettait de répondre à l'objectif qu'il s'était fixé, c'est-à-dire de contrôler le nucléaire militaire iranien et qui permet des mécanismes de contrôle qui sont extrêmement développés par l'AIEA.
Alors dans ces conditions, pourquoi Donald Trump, pourquoi Benjamin Netanyahou veulent-ils dénoncer cet accord ?
Alors, Donald Trump et Benjamin Netanyahou étaient opposés à l'accord dès le départ. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été dit clairement que l'Iran ne respectait pas sa part de l'accord, donc la question n'est pas là. Et d'ailleurs, l'AIEA, qui est la seule agence qui est habilitée à contrôler si l'Iran respecte sa part de l'accord, a déjà certifié 9 fois depuis la signature de l'accord en 2015 que l'Iran respectait sa part de l'accord. Et même quand Trump a décidé de décertifier l'accord en octobre dernier, son argument était de dire l'accord en lui-même est dangereux pour la sécurité nationale des États-Unis et pour les intérêts nationaux des États-Unis.
C'est le cas selon vous ?
Alors, ça peut être le cas si on se place dans la perspective où l'accord serait censé pacifier la région. C'est-à-dire que la rhétorique, notamment de l'administration Obama au moment de la signature de l'accord, était très centrée sur le fait que cet accord allait permettre de pacifier la région et de faire rentrer l'Iran dans un certain moule et de se conformer à un certain nombre de choses. Ce qui n'a pas été le cas puisque l'Iran continue ses activités dans la région. Donc ça, effectivement, si on se place de ce point de vue-là, ça peut aller dans ce sens.
Alors Donald Trump devrait décider avant le 12 mai si les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien, donc il a toujours jugé, comme vous l'avez dit, Léa Rousselet, désastreux. Il va probablement décider de s'en retirer.
Oui, alors il y a deux scénarios possibles. Soit il décide de rétablir effectivement les sanctions, ce qui conduirait automatiquement à la fin de l'accord. Soit il décide de ne pas rétablir les sanctions et de maintenir l'accord et de décider de suivre Macron dans sa stratégie donc des quatre piliers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une troisième voie qui est possible, c'est-à-dire il peut décider de rétablir les sanctions, mais avec un délai qui peut aller jusqu'à 180 jours, donc c'est-à-dire 6 mois, et ce qui laisserait un temps pour la négociation diplomatique.
Et oui, parce que Emmanuel Macron, lui, tente de sauver cet accord, mais alors il souhaite l'élargir, et pour ce faire, il va falloir qu'il réussisse à convaincre la Russie et l'Iran, ce qui ne va pas être simple, Frédéric Ancel.
Ça me paraît à peu près impossible. Je veux dire par là qu'on peut très bien renégocier des points techniques. On peut renégocier une chronologie.
Qu'est-ce que ça veut dire des points techniques
C'est-à-dire rester en tout cas dans le domaine du nucléaire, hein, sur lequel est focalisé cet accord. C'est un accord spécifiquement consacré au nucléaire. Maintenant, si vous commencez à engager l'Iran sur des questions politiques et stratégiques autour de Bachar el-Assad, là, on comprend bien que c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que les Iraniens vont se sentir floués, d'ailleurs c'est déjà le cas, et les Russes vont refuser catégoriquement de suivre les Occidentaux sur cette voie-là.
Et dans le même temps, Léa Rousselet, s'il y a négociation de cet accord avec l'Iran, si l'on souhaite que les Iraniens suivent cette renégociation, il faut de toute façon leur donner des garanties sur le plan économique, puisque là, il y a une véritable urgence économique pour l'Iran. Cette urgence économique, c'est la levée des sanctions qui, aujourd'hui, frappent ce pays. Aujourd'hui, où en est-on sur le plan intérieur et quels peuvent être les différents scénarios à cet égard ?
Alors, c'est vrai que les Iraniens ont été extrêmement déçus finalement des conséquences de l'accord, parce que d'un point de vue économique, il y a tellement de sanctions qui ont été rajoutées en même temps que celles qui ont été levées en ce qui concerne le nucléaire, que finalement les conséquences sont assez limitées. Et d'ailleurs ça pourrait être un argument qui pousserait les Iraniens à revenir à la table des négociations si jamais les Européens et les États-Unis disaient on joue sur l'argument économique et commercial en vous promettant une levée des sanctions.
Et alors, on voit qu'il y a un affrontement entre différentes lignes, Faucon et Colombe, dans les différents pays, aux États-Unis, en France. En Iran, il y a aussi un affrontement au sein du pouvoir, puisque il y a également des conservateurs et des progressistes. Et là aussi, la question du nucléaire est centrale dans les fractures politiques iraniennes.
Oui, tout à fait. Je pense que si Trump décide le 12 mai de rétablir les sanctions et donc de mettre fin à l'accord, ça sera certainement une victoire pour les conservateurs iraniens. Et donc, on peut s'attendre à un durcissement de la politique iranienne. Et surtout, ça sera un affaiblissement de Rouhani, qui a été le principal interlocuteur et qui est encore aujourd'hui le principal interlocuteur pour les Européens.
Lélia Rousselet, Négocier l'atome, c'est l'ouvrage que vous avez publié chez l'Harmattan. Frédéric Ansel, Mon dictionnaire géopolitique aux presses universitaires de France. Et dans quelques minutes, aux environs de 8h20, eh bien, on va évoquer l'une des plus graves erreurs géopolitiques. En tout cas, c'est ainsi que je la présenterai, celle qui consistait à dire, il y a quelques semaines, que la Corée du Nord était sur le point de menacer la paix du monde. Aujourd'hui, on nous explique que c'est quasiment la portion la plus paisible de l'humanité. Frédéric Ansel, vous nous expliquerez comment les géopoliticiens ont pu se tromper à ce point. Et puis, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles. Le billet politique de Frédéric Seize, le billet culturel de Mathilde Serrel et la conclusion définitive d'Aurélien Bélanger. Restez avec nous, il est 8h sur France Culture.